Est-ce que toi aussi tu fais confiance aux licornes?
Ça dépend.
Sur des sujets pointus, peut-être.
Ouais, enfin, ouais.
Ah.
Ouais, ça pique un peu quand même.
Bonjour Eman, bonjour Dodo, bonjour Nadelle.
Salut.
Oui, Cécile.
Et bonjour, bienvenue aux auditeurs dans l'émission Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, le sujet du jour abordé, c'est un sujet que nous a trouvé un sujet de pointe. MMU, tu vas nous dire ce que tu as trouvé.
Eh bien, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que je faisais quand j'étais étudiant, que j'avais des calculatrices.
T'avais des calculatrices?
Des Caltos.
Des Caltos.
On fait des Caltos et puis on fait des trucs dessus.
Ah, moi, j'avais une Casio.
Ah ouais.
Et toi? T'avais quoi?
TI. Ah,
j'ai eu une Casio et puis après, j'ai eu une HP.
Ah,
ah oui. Monsieur avait une HP. Bah, t'avais des sous, hein?
Ah ouais, bah ouais. Oui, je m'étais fait plaisir.
Ah, tu pourrais peut-être nous faire un sujet, alors.
Et toi, Medbel?
Texas Instruments.
Ah, ah, Team Texas, cool.
Ah, la Team Texas.
Ouais, non, mais c'était les batailles. Il y a eu les Atari contre Amiga, puis il y avait Texas contre HP.
C'est vrai. HP, elle était énorme. Et c'était impressionnant. Ouais. Bref, c'était une autre époque. Mais avant, nous allons revenir au sujet plutôt d'actualité. Et puis, on a des fails cette fois.
Ah oui.
Eh oui.
Alors, de l'IA.
Une étude montre que l'utilisation des IA se fait au détriment de votre réputation professionnelle. Les collègues vous jugeant plus fainéants et remplaçables et moins compétents, eh bien, vous êtes prévenus.
La plupart des auteurs et traducteurs indépendants utilisés par Duolingo auraient été mis sur le banc de touche dès début 2025 pour être remplacés par de l'IA. Dans certaines langues, des équipes autrefois composées d'une demi-douzaine de personnes n'en compteraient aujourd'hui plus qu'une seule.
Imaginez un avenir où une IA pourrait faire des achats pour vous. Des millions de clients compteront bientôt sur l'IA pour trouver le pull parfait. Mastercard, Visa, PayPal lancent des IA qui magasinent, payent et achètent à votre place. Non, c'est où qu'on dit non là?
Le site Mr. Deepfakes hébergeait des dizaines de milliers de vidéos pornographiques générées par IA, mettant en scène la plupart du temps des célébrités. Il a été fermé, un pharmacien canadien aurait été à la manœuvre.
Personne n'est prêt pour l'IA dans l'éducation. Fin des devoirs à la maison, triche, difficultés d'apprentissage. Des professeurs racontent comment l'IA a bouleversé leur travail et celui des élèves.
L'IA n'est pas juste en train de pourrir le web, elle est aussi en train de pourrir les espaces de publication scientifique avec des articles superficiels, oubliant de multiples facteurs dans leurs analyses et avançant des découvertes bidons. Pour le redire autrement, l'IA est en train de pourrir et de faire reculer la science.
Waouh !
Et je crois qu'à ce sujet, il y a aussi des scientifiques qui font des vraies études mais qui se servent quand même de l'IA parce qu'ils ont un peu la flemme de résumer certains paragraphes. Donc, globalement, ça pourrit partout.
C'est génial. Comme les comptables.
Tu disais, Medbel?
C'est comme les comptables, on sait.
Ah oui. Eh bien, ça y est, la bulle va éclater. En tout cas, certaines entreprises recommencent à embaucher après avoir voulu virer tout le monde. C'est étrange. Hein. Ah. Eh bien oui, il faut mettre de l'IA à la place. Alors que la plupart des projets d'utilisation de l'IA font flop, les dirigeants d'entreprises semblent toujours vouloir sauter à pieds joints dedans.
Certains textes absurdes conçus pour embêter les IA pourraient devenir une nouvelle forme de poésie. Bon, j'ai pas encore compris le rapport entre le Markdown et le chocolat, par contre.
Des GAFAM, en veux-tu, en voilà, et avec de l'IA.
Google n'aime pas la concurrence de Nextcloud. Et tout d'un coup, interdit de son Play Store à l'application Nextcloud de pouvoir accéder à tous les fichiers sous Android. Ce qui est nécessaire pour la synchronisation des fichiers.
C'est un peu l'objet du truc, hein.
Une des conséquences de la menace qui pèse sur Google d'être reconnu comme un monopole, c'est la disparition probable de la source principale du financement de Mozilla. En effet, Google leur donne des millions pour être le moteur de recherche par défaut sur Firefox, aussi un peu comme alibi pour s'assurer que Firefox existe, histoire de montrer qu'il n'y a pas de monopole. Sauf que s'ils sont condamnés comme tels, ils n'auront plus besoin de cette excuse.
Google teste l'ajout d'une rubrique AI Mode sur son moteur de recherche qui affabulera, synthétisera des réponses d'après leurs index. Tant qu'on n'est pas obligé de l'utiliser. Un AI Mode Tab Wilson.
Personne ne me relit quand j'écris des trucs, donc forcément je rate des choses. Voilà.
Bon, ça va apparaître pour les utilisateurs américains d'abord.
Voilà.
Google profiterait de son monopole pour dégrader volontairement leurs résultats de recherche afin d'exposer leurs utilisateurs à plus de publicité. Ben oui, si vous cherchez plus longtemps...
Une action collective contre Apple lancée en France pour espionnage des iPhones via Siri et réclame le remboursement de leurs appareils.
Les enregistrements audio des lunettes Ray-Ban de Meta pourront être conservés jusqu'à un an et les photos et vidéos pourront être utilisées pour entraîner l'IA. Bon, de toute façon, elles sont moches, ces lunettes.
T'as pas intérêt de les utiliser quand t'es pas habillé. Moi, je dis rien. Hein. Alors, le...
Mais si, pour choisir tes vêtements, ça doit être pratique.
Oh là là. Horrible. Le Reality Lab de Meta perd 4,2 milliards de dollars au premier trimestre, mais on continue de creuser.
Sur Facebook et Instagram, vous aviez décoché la case « J'autorise Facebook à utiliser mes données pour entraîner ces IA ».
Pas grave.
Il va falloir recommencer à croire qu'ils ont vraiment un problème avec la notion de consentement. Not of Your Business leur a envoyé une mise en demeure à suivre.
Le PDG de Microsoft prétend que 30% de leurs codes sont écrits par des IA. C'est très peu vraisemblable en fait, mais je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer.
Microsoft coupe l'accès à ses outils aux universités chinoises. À quand la même chose chez nous ?
L'intégration de Copilot dans le SharePoint pose des problèmes de sécurité. Copilot, donne-moi ces mots de passe auxquels je n'ai pas accès.
Vous vous souvenez de Recall qui enregistrait des captures d'écran régulièrement ? Eh bien, il revient.
Une mise à jour de sécurité de Windows peut être détournée pour bloquer les mises à jour suivantes.
Le service de bureau à distance RDP de Windows laisse passer des connexions avec des mots de passe révoqués. Il paraît même que c'est une feature.
Une lueur dans l'Union européenne ?
Une cour d'appel belge a jugé le Transparency and Consent Framework utilisé par Google, Microsoft, Amazon et d'autres pour justifier le tracking publicitaire qui était contraire aux lois de l'Union européenne. Et donc, les bannières de cookies sont illégales.
Et pour la Commission européenne, la base de données publicitaire de TikTok enfreint les règles de l'Union européenne.
Twitter France condamné pour harcèlement moral. Et Twitter France ?
Ouais.
C'est pas ex ? Les mails de Musk suite au rachat envers des employés. D'accord.
Une augmentation inquiétante des vols d'ordinateurs militaires. C'est peut-être parce qu'ils sont plus robustes.
Alors les US et pas de coutume ?
Oui, les US et coutume.
Eh ben oui. Le Dodge a demandé... à un étudiant d'utiliser l'IA pour réécrire les règles d'urbanisme. Vous croyez qu'il y aura plus de logements d'étudiants ?
Musk a fait virer les responsables de l'administration en charge du copyright US pour y mettre des copains, espérant un renvoi d'ascenseur qui lui donnerait le droit de violer le copyright pour entraîner ses IA. Raté, deux des remplaçants sont anti-technologie.
Les compagnies aériennes revendent les données qu'elles collectent au service de l'immigration US.
De la géopolitique sans géotrouve-tout.
Vous vous souvenez de la campagne de Hello contre Hello Kittix ? Derrière, il semblerait que la Russie était à l'œuvre avec des réseaux de désinformation bien huilés, des reprises par les médias et des politiques d'extrême droite et des méthodes d'intimidation parfaitement maîtrisées, notamment le doxing d'une développeuse de projet. C'est analysé comme un premier épisode d'une attaque virulente contre les laboratoires de recherche, ici le CNRS, avec une explication de la méthode dans une publication.
Alors, doxing, on rappelle, c'est quand on donne l'identité d'une personne et qu'on dit elle habite à telle adresse, machin, dans l'idée que les gens vont aller l'embêter, quoi.
La dépendance de l'Europe au cloud américain coûte cher. En effet, le Cigref estime que 264 milliards d'euros annuels sont dépensés en services cloud des Européens auprès des fournisseurs US et 66 milliards pour la France.
Cybersécument, tut.
Cerca une appli de rencontre, ne vérifie pas les jetons OTP. Donc, d'autres pouvaient se connecter et récupérer vos données. Ou forcer des matchs par l'API.
Meta, contraint par un procès, NSO Group a dévoilé les coulisses de son logiciel espion Pegasus. Et l'on découvre qu'il pouvait en coûter jusqu'à 500 000 $ pour espionner une cible. D'aucuns diront qu'il est donc improbable que Pegasus en ait espionné des dizaines de milliers. Pas si sûr. Le prix pourrait très bien dépendre de la cible. NSO était condamné à verser 167 millions de dollars à Meta. Et Amnesty International appelle à une interdiction internationale de ce logiciel espion.
Des failles trouvées dans les contre-mesures pour la faille Spectre qui exploite des races conditions dans la prédiction des sauts conditionnels.
En vrac, on vide son sac.
Un site qui pillait des articles d'autres journaux a fait l'objet d'une condamnation au tribunal judiciaire de Paris. C'est une première pour ce genre de site qui utilise souvent des plugins WordPress qui automatisent la récupération et la republication d'articles depuis d'autres sites sans citer la source, tout en générant des revenus publicitaires.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde à bosser, nous, franchement ?
C'est vrai. Alors, pendant plus de 20 ans, des cybercriminels ont transformé des milliers de nos routeurs obsolètes en proxy résidentiels pour dissimuler leurs activités illégales. Après une traque d'un an, le FBI vient de démanteler le réseau de bootnet AnyProxy, Firefox, et d'inculper 4 personnes.
Les violations de données en hausse selon la CNIL. Ah bon ?
Et enfin ! Ah oui, si, il y a eu des fuites aussi. C'est qui a fuité ? C'est Dior, j'adore. Eh bien, c'est bah, tout pour les fails.
Êtes...
Hein.
Voilà, vous êtes au parfum.
Ah bah oui, bien joué.
Et oh, Katharina la bella.
Alors, moi, j'ai peut-être un fail additionnel qui date d'aujourd'hui sur l'IA Grok. Puisque Musk est décidé à faire passer tout un tas d'idées fascistes et puis des idées sur des choses qui sont inventées comme l'oppression blanche en Afrique du Sud, comme s'il y avait une oppression blanche, enfin c'est le contraire.
Oui, parce qu'il a accueilli des réfugiés... blanc d'Afrique du Sud, alors que...
C'est fabuleux.
C'est... Ouais, bon,
et donc, comme son IA le nie, ils ont forcé dans le script de réponse de parler de ça, d'oppression blanche, mais en fait, quel que soit le sujet. Donc tu demandes à l'IA Grok une recette de quiche aux légumes, et puis ça
faut enlever le jaune de l'œuf parce que c'est de l'oppression blanche.
Donc ça va te donner la recette, et puis ensuite, au fait, est-ce que je vous ai parlé de l'oppression blanche en Afrique du Sud ?
Tiradote, Grok.
Et ce qui est fabuleux, c'est que l'IA Grok est mine de rien une IA qui est pas trop mal au niveau de la récupération des sources, et donc l'IA Grok, elle va dire ça. Et ensuite, juste en dessous, elle va dire « Bon, par contre, on me demande de faire des choses alors que j'ai des sources contraires et donne la source du contraire quand même. »
D'accord.
Donc elle débunk le mensonge qu'on la force à dire. C'est pas mal, ça.
C'est
gars.
Ça. Il est fabuleux, ce fait.
C'est un caractère scientifique, cette IA.
Intéressant.
Ouais, c'est une démarche très scientifique.
Il faudrait
que
tu nous trouves une source, justement, pour mettre sur le pad.
Avec plaisir. Eh bien, c'est tout pour les fails. Merci, oui. Roudoudou, pour la fail du jour qu'on a reçue tout fraîchement. Nous écoutons une petite chiptune et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour qui donne un peu des boutons.
Ouais, non.
Vaporous de Hoffman, une musique qui a illustré une démo qui a terminé dans le classement seconde à la catégorie Hot School Demo Competition à la révision. Et c'est une démo Neo Geo, oui, sur console, on est d'accord.
Parfait pour la sieste, ça. C'était bien sympa.
Eh oui. Eh bien, nous allons passer au sujet du jour avec Bidouille sur calculatrice. Oh, ça
oui.
Me donne des boutons, tout ça.
Oui. Eh oui, je voulais revenir sur une période presque révolue, celle des caltos et des bidouilles en tout genre qu'on a pu faire au lycée en école d'ingé. C'était il y a quelques années pour moi. En effet, s'il existe maintenant une calculatrice programmable en Python chez Numworks, j'ai l'impression que la plupart des ados aujourd'hui se fichent royalement de ces matériels, puisqu'ils ont déjà quelque chose de bien plus puissant dans leur poche tous les jours.
D'ailleurs, même la calculatrice Numworks se retrouve aussi directement sur ordinateur.
Oui, il y a un
téléphone sur téléphone, ouais. Pardon.
Alors qu'il y a 25 ans, la calculatrice était ce qui se rapprochait le plus du PDA, le Personal Digital Assistant, qui venait plus ou moins d'être inventé, mais qui était hors de portée des étudiants que nous étions. On était un peu fauchés. Bien sûr, en ce temps-là, déjà, les fabricants verrouillaient leur matériel et leur logiciel, parfois, et notamment par peur des triches aux examens. Bon. Mais c'était sans compter sur l'insidonité des petits morveux. Il y a de nombreux types de calculatrices, hein, depuis les basiques que chacun avait dans son tiroir il y a 30 ans, aux graphiques avec écran couleur. Dans celles qui nous intéressent ici, on distingue d'abord les programmables qui sont apparus dans les années 80, avec des marques comme Sharp ou Casio, habituellement des pavés argentés avec un clavier alphanumérique, souvent doté d'une sorte de basique, avec de nombreux périphériques, lecteurs de cassettes, imprimantes thermiques, voire modems, de vrais micro-ordinateurs miniatures et chers, mais limité par l'affichage LCD d'une ou deux lignes de texte seulement. Mais on bavait sur les catalogues à l'époque, c'était avant l'Atari Portfolio, enfin c'était à peu près à la même époque. Mais...
Quoi, on ne va pas pirater de nouveau un DAB là pour avoir quelques sous?
Ouais. Mais par la suite, d'autres fabricants s'y sont essayés avec des formes souvent classiques, parfois plus originales. Avec les progrès des afficheurs à cristaux liquides, on a vu arriver sur le marché des calculatrices graphiques dont les programmes pouvaient tracer des courbes de fonctions, par exemple, ou d'autres choses. Certaines ont même eu droit à des écrans couleurs, enfin, genre 4 couleurs, mais
ouais,
bon...
C'était énorme.
Voilà, chez Casio, entre autres, ils étaient bien fans de ça. Alors, effectivement, c'était bien délavé, puis on avait un espèce de rouge, mais c'était plutôt un magenta fade, un jaune un peu pisseux, enfin bon...
Ouais,
mais on avait des
orangé.
Couleurs. Voilà, c'est ça. Mais il y avait des couleurs. Mais bon, Casio, mais j'ai pas trop pratiqué. Alors, tu disais que t'avais une Casio.
Oui, c'est ça, en couleur en plus.
Bah, tu pourras nous faire un sujet un jour. Voilà. Il y a eu les HP, effectivement. Alors, moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les HP, mais voilà, elles méritent d'être mentionnées et elles mériteraient certainement un sujet en elles-mêmes.
Rode, tu peux nous en parler un petit peu?
Voilà.
Moi, j'ai été juste utilisateur. Par contre, c'est clair que c'était une calculatrice de Maboule qui avait le transfert infrarouge. Donc, c'était une des premières.
Ah oui, en plus, ouais.
Et attends, t'avais du son.
À l'époque, c'était une des seules à le faire. Et donc, tu pouvais échanger tes antisèches avant les contrôles avec les potes. Et puis, tu pouvais aussi scanner des bips infrarouges. Alors, tu pouvais scanner ta télécommande télé ou tu pouvais, tu pouvais scanner des clés pour ouvrir des portails de parking, par exemple.
Ah ouais, c'est un peu comme le Dolphin aujourd'hui.
Voilà, c'était le Dolphin avant l'heure.
Et ouais. Voilà, donc effectivement, c'est un peu la plateforme de référence des calculatrices programmables. Le modèle le plus connu, c'est la HP48. Alors, il y a eu des déclinaisons, il y a eu la GX, je ne sais plus, voilà. Alors, en plus d'un processeur atypique, le Saturn, CPU 4 bits, ouais, ça existe, elle utilisait la notation polonaise inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de dire 1 plus 2 égale, on empilait les opérations en commençant par les opérandes 1 et 2, et puis l'opération plus, et on finissait par la touche entrée. Donc, on disait 1, 2, plus, et faisait l'opération 1 plus 2. Alors, c'est moins naturel pour nous, les humains, mais par contre, c'est plus efficace car ça élimine complètement le besoin de parcourir l'expression pour la comprendre. Parce que quand on lui dit à la calculatrice 1 plus 2 égale, il faut qu'elle se dise, alors attends, tu veux, l'opération c'est plus, puis tu veux faire plus avec 2 et 1, enfin bon, voilà. Alors que là, en fait, il n'y a pas besoin de la parcourir, elle est déjà dans le bon ordre pour être traitée par le logiciel. Donc c'est plus efficace et ça consomme moins de ressources. Alors il y a bien sûr eu de nombreux logiciels et jeux écrits pour ces calculatrices, mais comme je ne les connais pas, ben voilà, si quelqu'un veut faire un sujet spécifiquement dessus, n'hésite pas, Roudoudou. Par contre, je peux vous parler des Texas Instruments. Et ouais, alors après avoir eu une TI-30 STAT au collège, j'ai commencé mon épopée au lycée avec une TI-82, c'était un des successeurs de TI-81, doté d'un processeur Z80, voilà, un clavier alphanumérique mais en vertical, donc c'était, ça ressemblait à une calculatrice plus normale mais avec un peu plus de touches et un écran un peu plus grand, quoi. Voilà, avec un écran graphique noir et blanc, enfin presque. En effet, des petits malins ont tout d'abord trouvé comment exécuter du code binaire arbitraire. Le premier exploit utilisait un backup patché et renvoyé à la calculatrice, c'est-à-dire qu'on demandait à la calculatrice de faire un dump de la mémoire pour archiver, en fait. Puis on patchait ça, on injectait des trucs dedans, et puis on rechargeait la sauvegarde dans la calculatrice. Et là, hop, magie, on avait accès à d'autres trucs. Voilà. Et puis ils ont écrit ce qu'on a appelé un shell pour lancer d'autres applications. Et enfin, après avoir documenté ce qu'ils ont compris du matériel, et on a même trouvé une méthode pour faire alterner des images rapidement, mais avec une durée différente de l'une à l'autre, et simuler 4 niveaux de gris. Enfin bon, c'était pas tout à fait du gris, c'était plus du bleu. Bon, voilà. Mais c'était quand même tellement mieux pour les jeux, hein.
Parce que tu jouais.
Ça m'est arrivé. Je suis pas trop joueur, mais ça m'est arrivé au moins d'essayer de regarder à quoi ça ressemblait, quoi. Alors tout ça publié sur des sites web, alors le plus connu étant ticalc.org, évidemment. Il y avait également un connecteur sur... Alors on n'avait pas d'infrarouge sur les Texas, mais on avait un connecteur... alors pas sur les 81, mais effectivement sur la 85, et puis la TI-82, on avait un petit connecteur, un petit jack 2,5 mm, pour relier deux calculatrices entre elles, ou la brancher sur un ordinateur. Mais alors moi, j'avais pas le câble de connexion, le TI-Link, machin, qui fallait, ça coûtait presque le prix de la calculatrice, donc j'avais déjà à peine les moyens d'acheter la Keltos. Donc j'avais trouvé plusieurs schémas sur Internet, j'ai commencé à avoir accès à Internet, et donc tenté plusieurs montages. Donc un sur le port série, et l'autre sur le port parallèle, parce qu'il y avait plusieurs façons d'interfacer ça avec un ordinateur, puis c'était avant l'USB. Et même avec un connecteur fait maison avec des morceaux de cartouches d'encre et des trombones pour faire les contacts. Si, si, même que ça a fonctionné. Donc voilà, car j'avais même pas d'embase jack sous la main. C'était pas facile à trouver. Mais j'ai fini par réussir à me connecter et à déposer des programmes dessus, notamment les jeux, donc j'ai pu les essayer. Et puis, en école d'ingénieur, je suis passé...
Purée, t'étais quand même déterminé, hein.
Ah oui, on avait envie. Attends, on avait acheté ce machin qui nous servait 2 heures par semaine pour les maths. On voulait le rentabiliser, le machin, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Hein, voilà. Et puis alors, en école d'ingé, je suis passé à la TI-92, alors ça c'est le niveau au-dessus, déjà il y a clavier QWERTY, pas A, B, C, D, E, F, machin, dans un boîtier 3 fois plus large, qui tenait plus de la console portable, ça ressemble vaguement à une Lynx, mais avec pas mal de boutons, que de la calculatrice. Et d'ailleurs il y avait une espèce de, une croix directionnelle là, et ça ressemblait pas mal à une console, quoi. Mais surtout un CPU encore plus puissant, un 68000,
wow.
si, ouais, comme le ST et l'Amiga. Bon, par contre, l'affichage, c'était toujours pas ça. Hein. Même avec plus de pixels, c'était toujours du noir et blanc. Enfin, du bleu foncé et du gris clair, en fait, vu le contraste. Mais là encore, la communauté a trouvé comment faire de l'assembleur et puis même du C. Sauf que la plupart de ceux qui bidouillaient là-dedans étaient des Windowsiens. Et donc, avec plusieurs autres, j'ai dû reporter TIGCC, donc le GCC, le compilateur qui avait été adapté pour cibler les Texas Instruments. Les TI-92 et compagnie, vers Linux, puisqu'en fait ils avaient rajouté du code mais qui marchait que sous Windows. Ah, c'est pas bien, c'est crade. Ils s'étaient pas gênés pour ajouter du code qui était pas POSIX dedans. C'est un peu un comble parce que quand même ça vient de Linux et ils arrivent, ils savaient pas, les pauvres. Et je me rappelle encore les nuits passées à compiler GCC sur mon ordi de l'époque, ça ramait. Enfin bon.
C'était lent. Mais ouais. on était patients.
Ah, mais on était jeunes et passionnés. Et là encore, on devait installer un shell qui exploitait une faille de l'OS pour s'incruster et lancer d'autres programmes. Alors le plus connu, hein, c'était Fargo, qui était le plus utilisé. Il y a eu d'autres clones après qui étaient plus ou moins similaires. Et il y a même eu un OS graphique multitâche pour cette plateforme nommé Prozit, pour lequel j'avais écrit quelques programmes. J'avais étudié ça, j'avais regardé, puis j'avais écrit des programmes. J'avais surtout porté du code que j'avais trouvé dans des STMAG. Donc en fait, j'avais porté des applications Atari sur Prozit, TI-92, quoi. Je me rappelle aussi avoir eu envie de bidouiller une extension ROM sur le connecteur interne, mais bon, j'ai jamais eu le temps. Voilà, la TI-92 a eu plusieurs évolutions. Il y a eu la TI-92+, la TI-89 qui avait le même processeur mais qui revenait au format vertical des TI-81, 82, 85.
Ouais, la Voyage 2000.
Alors, Voyage 200, ouais, qui a repris le format horizontal. Voilà, bah, va comprendre, parce qu'on passe d'un format à l'autre, puis on revient, puis... Ouais. Bah, c'est bizarre d'ailleurs.
On en a offert hein, à l'alchimie.
Ben ouais, je l'ai là. Voilà, je l'ai là. Mais ouais, mais il n'y a pas l'image. On n'est pas sur France Inter, on n'a pas les moyens. Mais voilà. Donc j'ai ma TI-92 là, puis la Voyage 200 qui. Ça ressemble au même format, mais c'est un tout petit peu. Voilà, il y a 3 cm en moins en largeur. Et voilà. Donc depuis, il y a eu d'autres modèles chez Texas, notamment la Inspire en 2007, qui elle utilise carrément un processeur ARM. Oui, oui, comme dans votre téléphone. Ici encore, des shells ont été écrits et des jeux portés, mais là, j'avoue que j'ai pas vécu cet épisode. J'avais fini mes études d'ingé. Oh, il y a même un émulateur de Macintosh pour la Inspire et Quake a été porté sur la Inspire aussi. Donc voilà, il y a des gens, il y a des fous. Et je vois que la TI-82+CE... 84+CE, il faut arrêter les références tordues là comme ça. Ah, maintenant un écran couleur, c'est une révolution. Ils ont pompé sur Casio, dis donc.
Ouais, comme quoi, hein. Ça la faisait baver.
Et ouais, donc je sais pas trop où en est le support des applications sur ces engins. Il y a une période brève pendant laquelle TI a validé la possibilité d'exécuter de l'assembleur, voire le coder directement dans la machine, donc à une époque... Mais vraiment, quelques années, ça a été supporté officiellement. Puis ensuite, ils ont refermé le tout et fermé toutes les failles qui étaient exploitées pour ça. Donc à chaque fois, à chaque nouvelle calculatrice, il fallait trouver un nouvel exploit. Bon, c'était marrant à l'époque, mais bon. Voilà. Alors, je vous mettrai quelques liens, bien sûr, sur le blog, sur underscore.radio.fm, pour aller plus loin. Il y a Yaronet, il y a un forum, il y a une section sur le forum sur les Texas. Il y a aussi une vidéo de This Does Not Compute, voilà, sur l'histoire des jeux sur calculatrice TI. Et il y a Silicium, notamment, qui a publié pendant quelques années la Gazette des Pocketicaires, donc sur les calculatrices, notamment, pour les passionnés du genre. Et voilà, je voulais dédier ce sujet donc, à Romain Liévin, c'est un camarade de promo, disparu récemment, et qui avait beaucoup œuvré sur la scène Texas Instruments. Il était auteur de TI EMU et de TILP, donc anciennement GT4 TI Link, donc des logiciels libres pour la plupart d'entre nous, on a utilisé à l'époque. Et bah, c'était une époque voilà, où la technologie était cool et intéressante.
Et oui.
Et un peu moins maintenant, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Voilà.
Donc, ciao Romain.
Eh bien, merci Mému pour ce sujet et pour ce petit clin d'œil à ton ancien camarade qui malheureusement ne fait plus partie de ce monde, mais qui a laissé trace grâce à ses œuvres et ses logiciels qu'il a créés pour ce domaine.
Voilà.
Eh bien, merci. On écoute une petite musique et on se retrouve après pour l'agenda.
Ouais.
Allez, à tout de suite. Bye. Eh bien, il s'agissait d'une musique issue toujours de la révision. Il s'agissait de Blitter Bar de Comatron. Une musique a été classée première à la révision, donc dans la catégorie Fast Music Competition. Donc cette compétition spécifique, je crois que c'est le même sample. Et ils doivent faire tous une musique avec le même sample, en fait.
Ah, donc, c'est un espèce de paint over, mais pour la musique.
Exactement, voilà. La même trame, mais avec plein de gens qui se sont essayés. Et c'était le premier.
Sympa. Roudoudou avait une petite anecdote
Oui, d'ailleurs, sur les calculatrices.
En fait, je me rappelais que j'avais pris la calculatrice HP, non pas parce qu'elle était plus puissante, ou puisque comme tu le dis dans l'article, la notation polonaise n'est pas forcément évidente, surtout quand tu programmes pas. En fait, quand tu programmes, c'est pratique, parce que c'est comme ça qu'on programme les FPU. Je l'avais uniquement prise parce qu'elle avait beaucoup plus de mémoire que les autres.
c'est important aussi, c'est un critère utile.
Elle avait 128 kilos, alors que les TI étaient à une vingtaine de kilooctets.
Oui, donc un gros morceau pris par l'OS déjà au démarrage.
En plus, voilà, donc voilà, elle avait vraiment beaucoup de mémoire, donc on pouvait mettre plein d'antisèches.
Oui, mais maintenant, c'est fini avec le mode révision. Pas révision.
Le mode examen.
Oui, le mode examen. Oui, je ne sais pas pourquoi révision. Bref, c'est parce que j'ai écouté trop
mais
de
c'est
choses.
C'est la révision.
Voilà, c'était la révision il y a quelques temps.
Il n'y a pas de démo partie qui s'appelle l'examen.
Non, effectivement. Allez. Eh bien, nous passons à l'agenda. Maître Bell, on t'écoute.
Alors, l'état d'urgence, 10 ans après les organisations de l'Observatoire de la Liberté et du Numérique, dont fait partie la Quadrature du Net, organise 2 journées de discussion à Paris sur les 10 années de répression et de surveillance qui ont suivi l'état d'urgence et l'adoption de la loi renseignement en 2015. Le 6 et 7 juin, plusieurs lieux à Paris.
Eh bien, c'est tout pour l'agenda. Nous passons à Lien à des liens.
Alors,
MMU, on t'écoute.
Alors, plusieurs appels aux gamers. D'abord, une étude scientifique à destination des gamers, donc réalisée par le CNRS. Il faut jouer au moins une fois par semaine pour participer. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous, chers auditeurs, qui voudront bien participer. Aussi, dans le cadre du projet en linguistique Ludocorp, Alice Ray de l'Université d'Orléans recherche des équipes de joueurs et de joueuses du jeu vidéo pour enregistrer des sessions de jeux multijoueurs pour cerner les spécificités du ludolecte francophone. Donc en fait, des dialectes spécifiques aux joueurs. Voilà. Sinon, les équipes de l'Assemblée nationale ont développé des simulateurs de l'application de la loi, donc ça s'appelle l'ex-impact. Par exemple, on peut simuler son foyer fiscal et voir les impacts de différents choix politiques d'imposition sur nos finances. Cet outil peut être utile, par exemple, pour interpeller son ou sa députée sur un projet de loi. Il y en a 2 autres trucs. Impulsé par plusieurs membres du collectif Chaton, le collectif d'Email Nagement vous accompagne à quitter Gmail et autres Yahoo, Hotmail, tout ça, en choisissant un autre fournisseur de mail éthique. C'est une bonne idée, ça. Et enfin, ce qu'on a parlé dans les fails de Duolingo, et ben, il y a LibreLingo qui est une alternative libre à Duolingo. Voilà.
Ah, bien.
Et ouais.
Eh bien, les liens, on les retrouve sur notre blog sur underscore.radio.fm.
Tout à fait.
Astrologique, frottons cette boule.
SF, j'ai dû voyager dans le temps pour connaître le sujet de l'émission pour savoir quoi rédiger comme astrologique.
Sysadmin, avez-vous pensé au backup de sauvegarde ?
Nerd, non, ça s'appelle un éviteur de texte. Il t'empêche d'écrire.
Graphiste, c'est qui à l'imprimeur ? Un vendeur de légumes ?
Électronicien, pourquoi ne veux-tu pas souder à l'air chaud ? C'est la puce qui ne voulait pas se balader à l'air.
Technocritique. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous savez très bien ce que vous avez dit. Il a dit quoi ? Il a dit, elle est forte, l'IA ! Soyez correct.
Okay.
Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, ça vient du film Le gendarme en balade.
Soyez correct.
Soyez correct. Voilà.
C'est
voilà, des trucs comme ça qui ressortent.
C'est la nonne.
La nonne, ouais,
la
c'est
grosse
ça. Pas John, hein, c'est la nonne.
Surprenant.
Voilà. Surprenant.
Eh bien, j'ai hâte de voir cet extrait en allant cliquer sur le lien.
Exactement.
Eh bien, amis auditeurs, c'est la fin de l'émission.
Ah, déjà ?
Eh oui. Oh. Eh oui, on a été ravis d'être avec vous encore une fois sur Radio Méga.
D'ailleurs, ou
Radio Cactus, hein, tout dépend là où vous nous écoutez. Et l'émission est enregistrée dans les studios de Radio Méga. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez notre podcast sur notre blog underscore.radio.fm. Sinon, vous pouvez aussi nous trouver hein, sur différentes plateformes de podcast. Hein, si vous
non,
vous
on ne se cache pas. Hein.
Underscore radio, oui, parce que si vous tapez que underscore, vous allez tomber sur autre chose qui n'a rien à voir. Qui...
On n'a rien contre, mais ils nous ont un peu piqué le nom.
C'est un peu ça, oui. En tout cas, voilà. Et puis, si vous avez envie de redécouvrir les émissions, n'hésitez pas. On avait le quiz, d'ailleurs, qu'on avait fait sur les émissions. C'était sympa.
Ouais.
Ma foi, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et cette fois, est-ce qu'on parlera de quelque chose de différent ? Ou bien alors, nous allons inviter quelqu'un ? Moi, je pense qu'on invitera quelqu'un.
Ah !
Ouais, j'ai une idée.
Je vois.
Ça va être un libriste. Je pense que ça va être un libriste.
Ah !
Mmh. Alors, SF, j'ai dû voyager dans le temps. Oh non,
non. Non.
Je crois que tu t'es gouré de...
d'époque. Mais c'est pas grave.
T'as mal réglé la DeLorean.
Ah, ouais. Vas-y, remets-la à 1984. Hey, on va regarder encore le flic de Beverly Hills, je pense. Allez, à très bientôt. À la semaine prochaine.
Salut.
Bye.
Ciao, ciao.
Bye bye.
Bye bye.
Bonjour Vivian, bonjour Nathalie, bonjour Flo. Hey, c'est fait.